Alors, on continue notre étude du mouvement charismatique à la fin du XXe siècle. Et donc, on était arrivé en 1979. 1979, qui va marquer aussi un tournant dans l'histoire du mouvement charismatique, qui va prendre une évolution tout à fait particulière. 1979, c'est la venue à Paris du pasteur coréen Yonggi Cho. Yonggi Cho est pasteur de ce qu'il présente comme la plus grande église du monde, à Séoul, en Corée, qui aurait, selon ses dires, 500 000 membres. Ça veut dire quand même peut-être le quart de la ville de Séoul. Je ne sais pas combien il peut y avoir d'habitants à Séoul, mais enfin, 2-3 millions peut-être, alors peut-être pas le quart, mais enfin, une fraction importante, en tout cas, de la population de Séoul. Bon, on aura l'occasion de reparler justement des réveils qui ont éclaté en Corée au long de ce siècle. Et il est vrai que, au lendemain de la guerre de Corée, c'est-à-dire dans les années 50, il y a eu des réveils extrêmement puissants qui ont balayé ce pays, qui font que, jusqu'à aujourd'hui, le feu du réveil se fait sentir dans tous les secteurs de la Corée, pas simplement dans l'église de Cho, de Yonggi Cho, mais dans tous les secteurs de la Corée, y compris d'ailleurs au niveau du catholicisme. Mais donc Yonggi Cho a commencé à être connu dans les milieux charismatiques dans les années 70, notamment dans le milieu charismatique américain, dont il avait pris beaucoup les méthodes d'ailleurs. Il s'est beaucoup inspiré des Américains. Et des Américains, donc, il est venu en France, de telle sorte que son église était devenue une espèce de lieu de pèlerinage pour tous les pasteurs qui venaient voir l'exemple d'une réussite tout à fait exceptionnelle et voir comment on pouvait transposer le modèle coréen dans les différents pays dont ils étaient originaires. Yonggi Cho avait basé toute sa doctrine sur ce qu'il appelait la croissance de l'église. L'église une église devait être gérée comme une entreprise commerciale, et toute entreprise commerciale qui ne fait pas de bénéfices périclite et meurt. Les bénéfices pour une église ne sont pas des bénéfices financiers, heureusement, mais c'est de gagner des âmes. Et par conséquent, une église doit être en croissance continue, au point de vue nombre, au point de vue membre. Et donc, il avait mis au point tout un système pour gagner des nouvelles âmes par le moyen de cellules de maison où il y avait tout un encadrement. Et alors, en particulier, c'est vrai qu'il y avait une grande insistance mise sur la prière dans les milieux coréens. Et alors, lui, il avait donc mis au point un système qu'il appelait la quatrième dimension. C'est-à-dire que nos sens nous amènent à évoluer dans un univers à trois dimensions. Et puis il y a une quatrième dimension qui est ignorée des Occidentaux, qui est la dimension spirituelle. Tout être humain a une dimension spirituelle, et les Orientaux, donc les Coréens, connaissent cette dimension que les Occidentaux ignorent. Cette dimension, c'est une dimension tout aussi naturelle finalement que sont les trois autres dimensions. Simplement, il faut en faire un usage qui est pour la gloire de Dieu. Les Orientaux l'utilisent par exemple pour le Bouddha, pour le yoga, pour toutes les spiritualités orientales. Et Cho avait décidé de reconvertir cette spiritualité dans le domaine du christianisme, dans le domaine chrétien. Et alors, cette manière de voir était basée sur le principe oriental de la visualisation. Il suffisait de se représenter le plus exactement, le plus concrètement possible l'objet que l'on désirait, et puis, à force de se le représenter, de vivre comme si on était en possession de l'objet que l'on désirait. Eh bien, au bout d'un temps, cet objet devenait concret, se manifestait, etc. Et alors, il faisait la simulation entre cette technique bouddhiste, parce que c'est issu du bouddhisme essentiellement, et puis la parole de Jésus, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Et par conséquent, tout son système était basé sur la visualisation dans la prière, dans ce qu'il appelait la quatrième dimension. Et alors, la croissance de l'Église était basée sur le fait qu'on se fixait un objectif, au début, un objectif modeste, en fonction de la petite foi que l'on a. Par exemple, d'ici l'an prochain, l'Église doit avoir grandi de 50 membres. Alors, le pasteur est censé venir dans l'Église quand elle est vide, par exemple, et de monter en chaire, et de s'imaginer qu'il y a 50 membres de plus à son Église. Alors, il leur parle, il leur prêche. « Je vous accueille, vous qui venez pour la première fois, et je vous remercie d'être venus si nombreux. Vous êtes venus 50 ce matin, je vous remercie beaucoup, etc. » Et puis, il leur prêche comme s'ils étaient là. Ils s'imaginent, ils les voient, les jeunes, les vieux, les femmes, les enfants, etc., qui sont habillés comme ci, qui sont bruns. Il y en a qui sont bruns, il y en a qui sont blonds, il y en a qui sont comme ci, il y en a qui sont comme ça. Il faut se les visualiser, il faut les voir concrètement devant soi, etc. Donc, nombre de pasteurs européens ont commencé à se rendre donc à Séoul, dans la fameuse église de Yonggi-cho, et être fortement impressionnés par cette technique de Yonggi-cho et puis le résultat qu'elle semblait donc apporter. C'est ainsi que une délégation française partie là-bas en 1979, à la tête de laquelle se trouvait le pasteur Jules Taubois, qui était donc pasteur d'une assemblée, de l'Assemblée du Point du Jour, dont nous avons déjà parlé, qui était l'ancienne église de Thomas Roberts. L'église du Point du Jour, donc, créée par Thomas Roberts dans les conditions que nous avons vues, avait par la suite... Jules Taubois avait essayé de la développer, ce qu'il avait réussi d'ailleurs avec un certain succès. Puis ensuite, il avait essayé de lancer dans les années 60, donc il était arrivé dans les années 60 là-bas, un mouvement qu'il avait appelé « Mouvement Esprit et Vie ». Ce mouvement était issu d'une campagne d'évangélisation qui avait eu lieu en France peu de temps auparavant, qui était présidée par deux Anglais, William et Barat, qui était originaire de Manchester, je crois, ou de Birmingham, je n'ai plus exactement le souvenir en tête. Et ces frères proposaient une nouvelle manière d'atteindre le réveil par ce qu'ils appelaient la sainte prostration. C'est-à-dire qu'ils priaient pour les malades, et la puissance du Saint-Esprit, du moins ce qu'ils donnaient comme étant la puissance du Saint-Esprit, faisait tomber le malade dans une espèce d'inconscience qui durait quelques minutes ou parfois davantage, au cours duquel il recevait une bénédiction, sinon dans son corps, du moins dans son esprit. Bon. William et Barat étaient venus faire une tournée dans les églises baptistes de charismatiques à la fin des années 70. Non, pardon, excusez-moi, à la fin des années 60. Et notamment, les nombres de pasteurs baptistes charismatiques, réveillés, comme on les appelait à cette époque-là, on ne parlait pas encore de charismatisme, étaient entrés dans ce mouvement de la sainte prostration. Alors, il y avait toute une théologie qui avait été élaborée à partir d'exemples bibliques qui semblent très, très discutables. Par exemple, on notait que Dieu avait plongé Adam dans un sommeil profond pour lui prendre la côte à partir de laquelle il avait fait Ève. Daniel était tombé prostré devant l'ange quand il avait vu l'ange qui lui parlait. Jean, dans l'île de Patmos, était aussi tombé comme mort au pied du Seigneur quand le Seigneur glorifié lui était apparu, etc. Donc, à partir de là, on faisait des rapprochements avec ce que précisément était vécu dans cette fameuse sainte prostration. À Paris, donc, le pasteur Jules Taubois pensa que ce mouvement allait provoquer une nouvelle vague de réveil dans la France tout entière, dont Paris serait l'épicentre. C'est la raison pour laquelle il avait acheté un nouveau lieu de culte rue Cavaignac dans le 11e arrondissement de Paris, et il avait persuadé deux autres pasteurs, le pasteur Paul Rossel de l'église de Réveil de Genève, qui était d'ailleurs son beau-frère, qui avait travaillé avec lui en Zin quand il était dans le Nord, et le pasteur Fleury Aube, qui était originaire du Nord également, de venir le seconder dans le réveil qui allait venir sur Paris, par le réveil, par la Sainte Prostration. Ce réveil par la Sainte Prostration avait provoqué de graves tensions à l'intérieur de la Fédération Baptiste, à l'endroit de ceux qui n'acceptaient pas le charismatisme en général et qui voyaient dans la Sainte Prostration en question une dangereuse déviation, quelque chose qui n'était pas spirituel et qui jetterait tôt ou tard le discrédit sur l'Évangile. La tension avait été vive au point que la Fédération Baptiste avait failli éclater. D'abord, les représentants de la tendance charismatique avaient voulu transformer la Fédération en une confédération. Autrement dit, c'était l'éclatement de la Fédération Baptiste. Finalement, on avait évité le pire. Et au moment où, précisément, le réveil par la Sainte Prostration s'est soufflé considérablement. Il fallut bientôt vendre la rue Cavaignac. Et puis, Jules Taubois dut se défaire de ses deux collaborateurs qui retournèrent là où ils purent, finalement, quoi, hein. Donc c'était l'échec, ce fut l'échec de cette tentative de réveil par la Sainte Prostration. Lors de la vague de l'esprit de 1970, Jules Taubois vit l'occasion de réaliser à nouveau donc cette vision d'un réveil sur la France. Et Jules Taubois entra délibérément donc et résolument dans ce réveil le réveil charismatique. Pour cela, il avait donc rasé la chapelle qui se trouvait rue de Musset, qui lui avait été léguée par Thomas Roberts. Il avait fait une opération immobilière, construit un immeuble dont il avait loué les appartements pour financer la construction de cet immeuble-là. Et le rez-de-chaussée et le sous-sol étaient une église beaucoup plus vaste, capable d'accueillir les nombreuses personnes sur lesquelles on comptait. Il s'est avéré très vite que les appartements, le fait de louer des appartements n'était pas l'idéal dans la mesure où il y avait justement des inconvertis qui pouvaient gêner le bon fonctionnement des activités spirituelles. Et lors d'une mission qu'avait faite Jean-Louis Jaillet, dont nous aurons l'occasion de reparler, qui lui aussi était donc un des leaders du mouvement charismatique dans ces années-là en France, des appels financiers furent faits qui permirent de racheter l'ensemble de l'immeuble, qui fut transformé en foyer de jeunes. Là aussi, il y eut de nombreuses difficultés, puis finalement, les choses se stabilisèrent. Et de fait, la rue Musset devint rapidement l'épicentre du mouvement charismatique français, situé donc en plein Paris, où se trouvaient à peu près toutes les activités charismatiques. Ce d'autant que dans ces années-là, Jules Taubois, qui était membre de la Fédération Baptiste, ne se définissait ni comme protestant ni comme catholique, mais au-dessus des églises. Et il voulait créer une communauté qui serait composée de chrétiens sans étiquette. C'était ce qu'il a affiché à ce moment-là. Et l'Église du Point du Jour était une organisation para-ecclésiale pour lui, le relais de l'implantation du mouvement charismatique en France. Un nouvel élan donc eut lieu à cette œuvre en 1979, lorsque le pasteur Jules Taubois se rendit à Séoul pour y rencontrer Yonggi Cho, qui l'invita en Europe. Et c'est ainsi que cette même année, donc, Yonggi Cho organisa une grande tournée dans différents pays d'Europe, dont Paris, justement, rue de Musset, donc Paris, Église du Point du Jour. L'Église du Point du Jour avait effectivement considérablement grandi, dans la mesure où des catholiques touchés par le mouvement charismatique avait été attiré par précisément cette vision para-ecclésiale qui était celle du pasteur Jules Taubois. De nombreux protestants réformés et autres qui avaient été touchés par le réveil charismatique et qui ne trouvaient pas dans leur église réformée ce à quoi ils aspiraient et qui ne voulaient pas aller dans des églises pentecôtistes traditionnelles qui étaient trop fermées, s'étaient retrouvés également dans la communauté du point du jour. Des gens qui étaient aussi originaires d'églises évangéliques diverses, libristes et autres, avaient fait la même démarche, si bien que, effectivement, le nombre des membres de la communauté avait considérablement grandi. La mission de Yonggi Cho contribua aussi donc à cet élan, et la communauté s'organisa sur le modèle de l'église de Séoul par des groupes de maisons. 40 groupes de maisons furent ainsi créés, l'église du Point du Jour adoptant à fond le message de Yonggi Cho. L'église était donc essentiellement un lieu de rassemblement et d'évangélisation et de formation, alors que la vie spirituelle se vivait essentiellement dans les églises de maisons. Et c'est ainsi que, pour pouvoir suivre le travail, l'église du Point du Jour embaucha 7 personnes à plein temps, qui n'étaient pas seulement des pasteurs, des gens qui faisaient une œuvre spirituelle, mais des gens qui s'occupaient du foyer, par exemple, ou bien qui s'occupaient de tâches diaconales. Le 29 décembre 1982, les auditoires ayant encore grandi et la salle pourtant reconstruite de la rue de Musset étant devenue trop petite, on y tenait plusieurs cultes le dimanche pour que chacun puisse y participer, acheta donc un grand cinéma à Boulogne, situé à quelques distances de là, lequel fut inauguré en grande pompe le 16 octobre 1983. C'est alors que les contacts avec Yonggi Cho tournèrent court, des dissensions éclatèrent entre Yonggi Cho et puis les responsables de la communauté du Point du Jour. D'autant plus que les groupes locaux, les groupes de maisons, les églises de maisons, avaient de plus en plus tendance à se séparer de l'église mère et de devenir des églises indépendantes. Donc, c'était évidemment pas tout à fait ce que l'on avait espéré. Certaines, parfois, adoptaient des vues assez discutables, doctrinalement, hérétiques même, n'est-ce pas ? Tant et si bien qu'il fallut, sinon mettre fin à l'expérience, du moins la freiner considérablement. Donc, en 83, eut lieu un grand virage et l'achat du cinéma de Boulogne permit justement de recréer une église plus classique où finalement tous ceux qui en faisaient partie se retrouvaient là le dimanche, hein, et aussi en semaine, bien sûr. C'est alors que Jules Taubois s'associa avec d'autres grands noms du charismatisme mondial, un certain Bronke, on dit en allemand, c'est ça ? B-R-O-N-C-K-E. Bronke, oui, c'est ça. Qui était un évangéliste de masse, un petit peu à la manière des télé-évangélistes américains, si vous voulez, et qui avait eu le projet, lui aussi, de créer la plus grande tente d'évangélisation du monde. Il avait donc fait construire une tente absolument gigantesque. Malheureusement, cette tente, dès la première fois où elle fut dressée, vit s'abattre sur elle une tornade épouvantable, ce qui fait qu'à la fin de la réunion, la tente était complètement inutilisable, détruite à peu près complètement. Mais Bronke continua, bien entendu, ses émissions d'évangélisation d'une manière un peu plus classique également. Et puis, dans ces années-là aussi, naquit ce que l'on appelait la troisième vague. Sous la direction d'une organisation qu'on appelait The Vineyard, la vigne en anglais, qui avait son origine donc à partir d'un pasteur qui s'appelait John Wimber. John Wimber qui était originaire d'églises évangéliques traditionnelles qui étaient très hostiles au réveil charismatique, comme le sont la plupart des églises évangéliques traditionnelles. Église baptiste, par exemple, non charismatique, ou bien église libriste ou autre, France Mission, toutes ces choses. En fait, tout ce qui gravite en France autour de ce que l'on appelle la Fédération évangélique de France. Et John Wimber s'était pourtant ouvert au réveil charismatique. Et alors, il avait lancé cette, œuvre de ce qu'il appelait la troisième voie, c'est-à-dire qu'il y avait eu deux vagues de l'esprit, la première vague au début du siècle, la vague pentecôtiste, une deuxième vague qui avait été dans les années 60-70, l'évangélisation plus exactement, le réveil des églises historiques, luthériennes, réformées, anglicanes, catholiques. Et puis, la troisième vague, c'était le réveil des églises évangéliques qui, jusqu'alors, étaient fermées aux choses de l'esprit. John Wimber lança un mouvement aussi qui était quand même très, très américanisé et qui se voulait, lui aussi, au-dessus des églises, un petit peu dans la vision qui était celle de Jules Taubois, et qui, finalement, aboutit à... Le fameux réveil de Toronto. Bon, le réveil de Toronto, il faut le citer pour mémoire, s'appelle aussi The Vineyard, l'église de Toronto s'appelle The Vineyard. C'était une stratégie qui a été mise au point par les partisans de la troisième vague qui pensaient que le réveil surgirait d'un certain endroit stratégique dans le monde où l'on viendrait. Un petit peu, c'était le modèle de Yonggi Cho. Bon, Yonggi Cho était un peu passé de mode. Donc, il faudrait que de là, une église de référence soit créée. Alors finalement, après avoir étudié les cartes, etc., ils décidèrent de fixer cette église, cet épicentre du réveil à Toronto, dans l'église du Vineyard, qui était proche de l'aérodrome de Toronto, donc d'un accès très facile pour tous ceux qui, du monde entier, viendraient ainsi pour participer à ce réveil. Et le réveil était donc basé sur la sainte prostration qui avait ressurgi sous d'autres formes, sous d'autres termes. On appelait plus ça la sainte prostration, on appelait ça maintenant le repos dans l'esprit, qui touchait également les milieux charismatiques catholiques. Tout pratiquement les milieux charismatiques de ces années-là avaient adopté le modèle du repos dans l'esprit. Et à ce repos dans l'esprit s'ajoutaient des manifestations diverses, et notamment le Saint-Rire. Ceux qui étaient touchés par ce réveil partaient d'un rire inextinguible qui pouvait durer des heures et des heures, qui ensuite ne les quittaient plus, qui faisaient que dans leur travail, chez eux, ils se mettaient à rire soudain, pas dans l'autobus, etc. Bon, vous imaginez que ça pouvait avoir un certain effet assez particulier sur ceux qui assistaient à ces manifestations. Puis au Saint-Rire s'ajouta alors des manifestations autres, des contorsions diverses pendant les réunions. S'ajoutait aussi à des danses dans l'esprit. Le Saint-Esprit était censé les faire danser, et puis imiter des animaux divers, tant par leurs cris que par, justement, les mimiques. Par exemple, qui se mettait à imiter la poule, battait des ailes comme une poule, tressautait comme une poule, etc. Bon, enfin, vous voyez. Bien. Donc, les propagandistes de cette manière d'être, penser qu'il s'agissait là, ou affirmer qu'il s'agissait de manifestations humaines, psychiques, qui n'avaient rien à voir avec le Saint-Esprit, mais qui étaient provoquées par une onction du Saint-Esprit. Et que finalement, peu importe ce qu'était la réaction, la réaction humaine et psychique, l'essentiel, c'était le Saint-Esprit. On prenait l'image du buisson ardent, disons que le buisson ardent était un buisson normal, et qu'il est courant de voir dans le Sinaï des buissons qui se mettent à brûler parce qu'il y a du pétrole dans le désert, chacun sait, c'est pas, et que bon, ben, certaines nappes de pétrole affleurent et puis mettent le feu à des buissons, donc c'est tout à fait courant. Donc c'était un phénomène de ce type-là qui s'était produit quand Moïse avait été interpellé par le Seigneur, mais le Seigneur avait profité du fait que ce spectacle était inhabituel pour Moïse. Entre parenthèses, la critique de cette doctrine est facile, car si Moïse était un habitué du désert, et il l'était, il avait vécu 40 ans dans le désert, et s'il était habitué à voir des nappes de pétrole affleurer et faire en sorte que les buissons se mettent à brûler, ça n'aurait pas dû tellement l'étonner. Enfin bon, Dieu a utilisé ça pour l'interpeller. Donc il y a des manifestations étonnantes qui font que les païens sont interpellés, sont intéressés et viennent voir ce qui se passe, et là Dieu leur parle. Voilà, c'était donc ainsi que les choses devaient être. Donc, il y eut effectivement des avions, des charters entiers qui arrivaient à Toronto pendant ces années-là pour viennent s'inspirer de ce qui se passait. Nombre d'églises charismatiques et pentecôtistes entrèrent dans le réveil dit de Toronto. Bon, puis après le réveil de Toronto, donc à la fin des années 90, donc ici à la fin du siècle, la charnière de notre siècle, un nouvel épicentre du réveil fut fixé à Pensacola, en Floride, où on insisterait plus, semble-t-il, d'après ce que vous avez dit sur la repentance, mais il y aurait les mêmes phénomènes que ceux que l'on trouve à Toronto, avec en fin de compte les mêmes effets. Donc le pasteur Jules Taubois entre à fond dans cette vision-là, jusqu'à ce qu'aussi il en voit les limites. Et là aussi, comme il y avait eu donc pour la Sainte Prostration, il y eut une certaine distance de prise à partir du moment où un certain nombre de membres de l'Église du Point du Jour n'acceptèrent plus, en quelque sorte, ce qu'on peut appeler quand même une dérive, n'est-ce pas? Bon, le pasteur Jules Taubois, sur ses entrefaites, prit sa retraite et laissa donc l'Église entre les mains de son fils cadet, Emmanuel Taubois, qui maintenant donc est à la tête de ce qui est quand même une des plus grandes églises de France, en tout cas la première église charismatique de France. Jean-Claude Willem, qui est un sociologue protestant très célèbre, enfin célèbre dans les milieux protestants toujours, disait que la réussite de la rue de Musset s'explique par le fait que le pasteur Jules Taubois a su prendre exactement ici le créneau de ce qui est l'aspiration des hommes et des femmes de notre temps, savoir création de groupes où l'on vient sans aucune contrainte et où on s'en va aussi facilement qu'on est entré, n'est-ce pas ? Parce que le pasteur Jules Taubois avait compris que les gens ne veulent plus aujourd'hui de choses qui sont contraignantes et ne veulent plus d'exercice de pouvoir. La rue de Musset et ensuite le Point du Jour est exactement basé sur cette manière de faire. Il n'y a strictement aucune obligation, aucune contrainte. Il n'y a pas vraiment d'exercice de pouvoir. On va, on vient, on entre comme on veut, sans aucune obligation, si j'ose dire. Donc, ce qui se passe dans ces églises-là, c'est que constamment, il y a des gens qui viennent et qui partent. Il y a un noyau qui reste, qui est quand même la structure de l'église. Et puis, autour de ça, il y a des gens qui vont, qui viennent, qui repartent, qui reviennent parfois, etc. Il y a des va-et-vient. C'est dans la vocation de l'œuvre d'être ainsi. Et les gens, ceux qui en sont les propagandistes pensent que les choses sont bien ainsi. Donc, à la fin de notre siècle, ce qui reste du réveil charismatique en France gravite essentiellement, en milieu protestant du moins, autour justement de la communauté du Point du Jour, rue de Musset, et donc à Boulogne, ce qui en est en quelque sorte l'épicentre. Deuxième pôle du mouvement charismatique en France à la fin du siècle, c'est l'Alsace-Lorraine. L'Alsace-Lorraine, où les choses ont évolué d'une manière un petit peu différente. Le réveil charismatique a relativement mieux percé en milieu luthérien qu'en milieu réformé. Et c'est ce qui explique le fait que dans les églises proprement historiques, puisque quand même le Point du Jour ne peut pas véritablement se dire église historique, même si c'est d'origine baptiste, mais dans les églises historiques, c'est en milieu luthérien que les choses ont le mieux perduré. Et l'Église luthérienne a un certain souci de s'intégrer dans l'institution, a une vision ecclésiale plus forte que les autres églises. Et dès le départ, le mouvement charismatique eut le même souci que le mouvement charismatique en milieu catholique, c'est-à-dire celui de s'intégrer dans l'institution. Nous avons parlé la dernière fois de cet événement marquant de l'histoire du charismatisme français que fut en 1982 le rassemblement de Strasbourg dénommé Pentecôte sur l'Europe, qui fut le plus grand rassemblement charismatique du siècle, qui rassembla 20 000 personnes du 28 au 31 mai 1982. Bon, les deux tiers étaient catholiques. Il y avait aussi un fort accent français sur la rencontre, bien qu'en principe, il y avait des participants de toute l'Europe. Il est tout à fait intéressant de noter que l'on avait évité d'inviter David Duplessis. David Duplessis, la chose était très bien organisée, notamment par le catholicisme. Et à partir de ce moment-là, le mouvement charismatique fut un mouvement pleinement accepté en Alsace-Lorraine, aussi bien dans l'Église catholique que dans l'Église luthérienne. Donc le résultat le plus évident de Pentecôte 82, Pentecôte sur l'Europe, fut l'intégration en Alsace-Lorraine du mouvement, donc dans les différentes églises qui étaient partie prenante de ce rassemblement. Et c'est ainsi que surgit un nouveau leader en Alsace-Lorraine, qui s'appelait Kurt Mader, qui fut en quelque sorte en milieu luthérien ce que Charlie Schinkel aurait dû être en milieu réformé. Mais alors que Charlie Schinkel s'est séparé de l'institution, Kurt Mader, lui, s'est vraiment intégré dans l'institution. Et lors du mouvement Pentecôte 88 au Bourget, qui était d'ailleurs aussi essentiellement catholique, Kurt Mader était le leader de la tendance de la branche protestante. Du côté de Charlie Schinkel, il y a eu aussi une évolution qui l'a amené à prendre de plus en plus de distance, par contre, lui, de l'institution. C'est ainsi qu'en 1900, dans ces années-là, très exactement, Acte II est devenu en quelque sorte la revue de Schinkel et cessa d'être l'organe du mouvement charismatique protestant français. Elle fut ainsi jusqu'en 1993. Année du décès de Gaston Ramseyer. Et en 1982 également, le courrier de l'encre cessa de paraître. En 1986, la communauté du Buisson Ardent, c'est ainsi qu'elle s'appelait, donc, qui avait été créée à Louveteau, en Normandie, au moment où Charlie Schinkel avait quitté l'Église réformée, donc il avait acheté le domaine de Louveteau, créant une sorte de centre de formation, de retraite spirituelle. Faut bien dire les choses, pas mal calquées sur le centre de Carré d'ailleurs, et n'ayons pas peur des mots, concurrents. Amusant de voir qu'il mettait les retraites spirituelles aux mêmes dates. Il organisait des séminaires pastoraux exactement sur le modèle de ceux qui avaient été organisés depuis 1969 à Carré, aux mêmes dates que celles qui avaient lieu à Carré, si bien qu'au bout d'un certain temps, il fallut cesser les séminaires pastoraux à Carré, parce que tout le monde allait à Louveteau. Bon, enfin, passons. Et c'est ainsi que se sont retrouvés à Louveteau, gravitant autour de Louveteau, nombre de communautés diverses, très très diverses, c'est le moins qu'on puisse dire, des communautés issues de groupes de prière, qui étaient nés dans les années 70, et puis qui avaient évolué finalement en église plus ou moins indépendante, qui était un petit peu larguée dans la nature, qui était devenue plus ou moins indépendante, et puis alors aussi énormément de groupes dissidents. Dans les années 70, à la suite justement du réveil charismatique, beaucoup d'églises ont eu à souffrir de dissidences graves. C'était souvent le fait de gens qui étaient allés à des rencontres, à des conventions, souvent des gens pas toujours très équilibrés, et qui revenaient là-bas convaincus d'être investis d'un ministère, d'une mission importante, ministère qui n'était pas obligatoirement reconnu dans leur communauté d'origine, et qui, n'étant pas reconnu par eux, en prenait ombrage, et se séparait avec un certain nombre de gens de l'Église, créant ainsi une dissidence. Donc, dans beaucoup de lieux, charismatiques ou non d'ailleurs, dans beaucoup d'églises charismatiques ou non, il y eut des groupes dissidents qui se formèrent. Et ces groupes dissidents se mirent à graviter autour de Louveteau, si bien que, en 1986, se créa une communion, pourrait-on dire, d'églises dites charismatiques qui regroupaient justement tous ces groupes indépendants qui avaient pris l'habitude de graviter un petit peu autour de Louveteau, autour du Buisson Ardent. Ce ralliement de ces gens-là ne fut pas évidemment du goût des églises dont ils s'étaient séparés et contribua un peu plus à marginaliser Charlie Schinkel et puis sa communauté du Buisson Ardent. Dans ces années-là aussi, le pasteur Schinkel a eu à souffrir d'une véritable persécution de la part des pouvoirs publics qui l'accusèrent de faire de la concurrence déloyale aux hôtelleries et restaurants des environs et tentèrent de détruire l'œuvre en lui imposant des amendes de milliards de centimes et, à titre personnel, de millions de centimes pour le pasteur Schinkel. Après un combat acharné, sur le plan juridique, le pasteur Schinkel parvint à obtenir gain de cause et un non-lieu donc fut prononcé par le tribunal en relation avec cette mesure inique qui lui avait été imposée. Mais planait sur l'œuvre la suspicion de secte. Suspicion de secte qui, dans ces années-là, commençait à croître et à grandir dans la société française. Tant et si bien que le pasteur Schinkel eut le désir de se préserver de ce type de suspicion, c'est tout à fait légitime, et donc demanda son entrée dans la fédération des églises, d'abord dans la fédération protestante, ce qui lui fut refusé à cause notamment des démêlés qu'il avait avec l'église réformée au moment où il était parti. L'église réformée s'opposa formellement à son entrée dans la Fédération protestante de France, ainsi que tout l'ensemble qui l'accompagnait et qui gravitait autour de lui, et qui n'était effectivement pas non plus très recommandable. Il est évident que ce serait une grave faute pour la Fédération protestante d'accepter un conglomérat aussi disparate que ce conglomérat-là. Et la Fédération protestante, avec juste raison, refusa. Le pasteur Schinkel se tourna donc vers les églises baptistes, et notamment Jules Taubois fut l'avocat de cet ensemble pour entrer dans la Fédération des Églises Baptistes. Pour les mêmes raisons, les responsables de la Fédération Baptiste refusèrent l'entrée donc de la communauté du Buisson Ardent dans les Églises Baptistes. Charlie Schinkel créa une confédération des Églises Baptistes charismatiques. Évidemment, la Fédération Baptiste ne vit pas d'un bon œil ce qu'elle considérait comme une usurpation de son nom, Baptiste, n'est-ce pas, pour des gens qui, pour elle, n'étaient pas des gens obligatoirement tout à fait valables. Autre évolution de la communauté, c'est qu'il y a eu un rapprochement à cette occasion avec justement la communauté du Point du Jour. Communauté du Point du Jour et puis un certain nombre de baptistes charismatiques du nord de la France qui, le milieu des années 80, créa une église, une équipe apostolique composée donc de 5 apôtres qui avaient pour mission de diriger un peu l'ensemble. Alors, il y avait Charlie Schinkel, Gaston Ramseger, Jules Taubois, pasteur Lermenot de Roubaix, et puis un cinquième, j'ai oublié le nom, peu importe, n'est-ce pas, qui étaient considérés comme des apôtres. L'équipe apostolique en question n'eut pas un grand succès. Les églises qui entendirent parler de la création de cette équipe apostolique accueillirent cette création avec beaucoup de suspicion, voire un brin de commisération, tant et si bien que l'équipe apostolique ne fut que quelque chose de tout à fait formel qui n'eut pas d'incidence dans la marche réelle des œuvres, bien entendu. La création de l'équipe apostolique eut aussi pour autre résultat d'isoler un peu plus le mouvement au sein du protestantisme français comme quelque chose de très très marginal. Des églises de cette mouvance ont réussi au coup par coup à rejoindre la Fédération Baptiste, mais finalement, jusqu'à aujourd'hui, l'ensemble des églises qui continuent à former la Confédération des églises baptistes charismatiques qui gravitent autour de l'œuvre du Buisson Ardent de Louveteaux sont très isolées, très marginalisées au sein du protestantisme français. À un moment où la guerre contre les sectes faisant rage, ces mouvements tentent aussi de se rapprocher de la fédération protestante sans que celle-ci ne réponde en rien à leur avance, vu aussi les antécédents. Autre pôle du mouvement charismatique en cette fin de siècle, c'était dans le cadre baptiste, mais qui le dépassait largement, la communauté rencontre de Lille. C'est rencontre qu'elle s'appelait, hein, je crois. Réconciliation, pardon, excuse-moi. Oui. Réconciliation de Lille. La communauté de la réconciliation avait été créée en 1983 par un jeune pasteur baptiste qui avait été formé au centre missionnaire de Carré, David Berly. Et donc en 1983, une communauté. Alors d'abord, David Berly était pasteur de l'église baptiste de Lille. Et de là était née une communauté de vie, alors totale, de couples et de célibataires, qui vivaient alors dans un même lieu, qui avaient une caisse commune, etc. Bon, dans un premier temps, même si on pouvait objecter sur le fait que des familles vivaient en communauté complète, cette œuvre était très prometteuse, et d'ailleurs, attira très vite sur elle l'attention d'abord des églises baptistes, puis des autres églises, et devint une des composantes essentielles, justement, du paysage charismatique français. En 1983, donc, la communauté de la réconciliation entra dans le département des affaires communautaires, des recherches communautaires de la Fédération protestante. Et à partir de là, les choses commencèrent à évoluer d'une manière assez particulière. D'une part, sous l'influence de Thomas Roberts, de Jean-Louis Jaillet, David Berly s'ouvrit énormément au catholicisme. Il avait de très grands contacts avec des gens comme René Jacob, qui était un des leaders du mouvement charismatique catholique, notamment dans la région du Nord, à Lille. Et donc, en 1987 aussi, il acheta un domaine dans le sud de la France, la ferme des Roches, pour la réinsertion de drogués, un petit peu à la manière de Teen Challenge. David Berly avait deux visions. Première chose, celle du Pernic dont nous avons parlé. Il se voulait un peu le successeur du Pernic. Et c'est ainsi que, dans les années 80, la communauté de la réconciliation se lança à fond dans des œuvres sociales très intéressantes au demeurant. Certaines d'entre elles, réinsertion de drogués, de marginaux, de clochards, etc. Bon, la manière dont c'était géré est évidemment très lourde, certainement pour les membres de la communauté, puisque les gens à aider, les drogués, les clochards, etc., étaient reçus dans les familles elles-mêmes, hein, vivaient avec les familles à fond, donc évidemment c'était parfois extrêmement difficile à vivre et à gérer. Donc ça c'était le premier point, le Pernic. Deuxièmement aussi, le mouvement charismatique. David Berly se voulait le successeur de Thomas Roberts vieillissant comme leader du mouvement charismatique français. Et pour ce faire, donc, il multipliait les contacts nationaux et internationaux. Et très vite, à la fin des années 80 et au début des années 90, il en vint à être considéré comme le leader du mouvement charismatique français avec Kurt Mader. Et aussi grâce au fait qu'il était pleinement intégré dans son origine, dans son église d'origine, qui était l'église baptiste. David Berly était associé avec une autre communauté qui s'appelait la Maison du Pain, et dont le fondateur était Patrick Folleville, qui était originaire de l'église apostolique, qu'il avait quitté pour l'ERF, puis qu'il avait quitté pour devenir baptiste. Bon, cet itinéraire un peu chaotique l'avait un peu marginalisé, et il fallut toute l'influence de David Berly pour finalement le faire intégrer à fond dans la Fédération protestante, dans le département des recherches communautaires. Le mouvement de rencontre, de la réconciliation, pardon, s'ouvrit aussi à d'autres influences, celle de Jean-Louis Jaillet, avec lequel des distances furent prises aussi au bout d'un certain nombre d'années, quand il apparut que les méthodes américaines qui étaient celles de Jean-Louis Jaillet risquaient de porter ombrage au bon témoignage de la communauté. Jean-Louis Jaillet était un homme qui était originaire de la Porte Ouverte, qui avait été formé à la Porte Ouverte avec Albert Burckhardt, qui était un évangéliste, qui avait un grand ministère d'évangéliste, mais qui s'était énormément inspiré des Américains. Osborne, Oral Roberts, les fameux télévangélistes, et qui faisait beaucoup d'appels d'argent, qui pratiquait le repos dans l'esprit, qui aimait beaucoup ce qui était spectaculaire, etc. Prêchant aussi l'évangile de la prospérité, c'est-à-dire que quand on est béni par le Seigneur, on est aussi béni matériellement. Il donnait l'exemple lui-même d'ailleurs, roulant en Mercedes, descendant dans des hôtels luxueux, etc. L'équipe justement de David Berly, de Charlie Schinkel et Jules Taubois avait fini par imposer Jean-Louis Jaillet dans la communion des frères qui se rassemblaient à Versailles. Et pendant tout un temps, donc, Jean-Louis Jaillet aussi participa au forum, on peut dire, ou l'instance nationale du mouvement charismatique français. Et puis Le groupe de Carré eut de plus en plus de mal à supporter les méthodes de Jean-Louis Jaillet. Et finalement, on arriva à une rupture avec ceux qui restaient donc dans la mouvance de Jean-Louis Jaillet, et puis le groupe de Carré qui prit ses distances par rapport à Jean-Louis Jaillet. Très vite, les problèmes continuèrent à se développer, notamment dans les années. Hypothéquer totalement son témoignage, tant et si bien que la distance fut prise aussi, et David Berly lui-même prit ses distances vis-à-vis de Jean-Louis Jaillet. Et à partir de ce moment-là, David Berly devint de plus en plus axé sur l'action sociale, voire politique. Et puis il se tourna alors vers un autre mouvement qui venait d'Amérique aussi à cette époque-là, qui s'appelait Jeunesse en Mission. Jeunesse en Mission était une organisation para-ecclésiale qui était née aux États-Unis et qui avait pour but de réveiller les églises par les jeunes, en touchant la jeunesse, et qui voulait donc provoquer dans les églises de toute dénomination, notamment celles qui étaient touchées par le mouvement charismatique, un profond mouvement de repentance. Donc ça, c'était tout à fait positif. Et puis de là, sous l'influence alors de comment il s'appelle, le frère qui a fondé l'Abri, son nom échappe, là, Schaeffer, qui insistait sur le fait que la souveraineté de Jésus devait s'exercer dans tous les domaines, y compris dans les différents domaines de la société, et notamment dans le domaine des arts. Jeunesse en Mission s'intéressa de plus en plus à l'art. Et c'est ainsi que d'abord, ce fut l'art musical, donc les recueils de Jeunesse en Mission, les recueils de chants créés par Jeunesse en Mission apportèrent une contribution réellement positive au réveil charismatique tout à fait au début. Il y a eu des chants qui étaient véritablement spirituels et inspirés par le Saint-Esprit. Et ces chants furent chantés dans le monde entier, n'est-ce pas ? Différents recueils ont été publiés. Mais de la musique, on passa aux arts plastiques, à la danse, etc., aux mimes et choses semblables. David Berly entra à fond donc dans cette vision-là, et dans ces années-là, donc il développa pour l'évangélisation tout un ensemble de techniques basées sur des spectacles artistiques divers. C'est pas lui-même était un ancien élève des beaux-arts pour le théâtre, c'est pas, il était très porté sur le théâtre pour lui-même, tant et si bien qu'il a beaucoup axé dans ce domaine-là. la communauté donc se développa dans le nombre de ses activités, peu dans le nombre de ses membres finalement. Il y avait eu un tout petit noyau, c'était quelque chose, c'était ce qui faisait d'ailleurs sa grande fragilité, il y avait un tout petit noyau de gens véritablement engagés et énormément de gens qui gravitaient autour, souvent venant d'autres églises pour passer un temps, qui repartaient après, etc. Donc à la fin, David Berly avait une vision très politique. Et notamment, il milita énormément pour l'indépendance de l'Afrique du Sud, enfin la fin de l'apartheid en Afrique du Sud, ce qui n'est pas une mauvaise chose en soi, bien sûr, mais s'investit vraiment là-dedans à fond. Puis ensuite, prenant parti pour les Palestiniens. Et c'est ainsi que, lorsqu'il vint le 20e anniversaire de la communauté, il avait pour projet de créer des fraternités en Afrique du Sud, à Gaza. Il participait aussi à toutes les rencontres qui avaient lieu internationales, qui avaient lieu donc un peu partout dans le monde, en tant que représentant avec Kurt Mader du charismatisme français. Et il était donc vraiment le leader de tout ce mouvement milieu protestant. Effectivement, à cette époque-là, Thomas Roberts avait disparu, tant et si bien qu'il était véritablement son successeur. Et puis alors, le terrible drame que l'on sait arriva au moment où le 20e anniversaire de la communauté allait être célébré. On apprit que David Berly vivait dans l'immoralité. La communauté donc se débanda, se désagrégea, et puis le discrédit fut énorme. Dans le même temps, la Maison du Pain aussi périclita, et les deux communautés qui étaient donc en communion étroite disparurent totalement, ce qui porta un coup d'arrêt sensible au mouvement charismatique protestant en France. Ça a été un drame absolument terrible. Autre pôle qui se créa à cette période-là, donc pour ce qui est du mouvement charismatique en France, c'est le groupe qui naquit dans le sud-ouest de l'éclatement de la communauté Samarie, dont nous avons déjà parlé, qui avait été créée par Lucien Istas, un homme d'affaires belge qui était installé à Toulouse et qui avait donc créé une communauté issue au départ de l'église réformée, des églises réformées locales. Quelques années plus tard, donc, Lucien Istas fit faillite quant à ses affaires et dut se retirer donc de la communauté qu'il avait fondée, qui fut reprise et qui s'associa donc avec une communauté aussi qui était née du réveil charismatique qui avait eu lieu dans le sud-ouest dans cette époque-là, qui s'appelait Ebenezer, dont le fondateur était Philippe Jauré. Et donc les deux communautés se rassemblèrent et créèrent donc le mouvement de la muraille. La muraille, c'était quelque chose qui était inspiré de Néhémie, qui avait reconstruit la muraille de Jérusalem. Donc ceux qui étaient engagés dans cette communauté avaient le souhait donc de recréer, de construire une muraille, la muraille spirituelle de l'Église qui, à leur sens, était détruite. L'accent principal qui était mis par ces communautés était ce qu'on appelait la relation d'aide. Relation d'aide qui a été inspirée aussi de Jeunesse en Mission. D'ailleurs, beaucoup de ceux qui étaient dans ces communautés sortaient de Jeunesse en Mission. La relation d'aide, c'est en quelque sorte quelque chose qui est à mi-chemin entre la cure d'âme et la psychanalyse, n'est-ce pas, et qui avait donc été adapté par les gens qui étaient à l'intérieur de Jeunesse en Mission, mouvement Jeunesse en Mission. Une autre communauté se joignit à ce mouvement de la muraille, s'appelait la communauté de la Restauration, qui était d'origine darbiste et qui avait aussi connu le réveil charismatique. Se joignit aussi à eux un pasteur pentecôtiste assemblée de Dieu qui fit des études de théologie à la faculté d'Aix et qui quitta les assemblées de Dieu, s'appelait Jean-Marc Potenti, qui rejoignit donc le groupe. En sorte que bientôt, le mouvement fut composé de 15 églises à peu près dans le sud-ouest. À partir de ce moment-là, donc, aussi, il Ils ont entrepris une ecclésiologie de type apostolique, créant une espèce de, aussi de structure d'apôtre, un petit peu comme ça avait été le cas pour le groupe de Czerny Schinkel. Et ils avaient pour ambition, pour but, de regrouper un petit peu tout ce qui était autour d'eux le mouvement charismatique français. Et alors ils ont changé leur nom de la muraille, ils sont devenus espace francophone. C'était bien sûr ambitieux, et alors il y avait l'idée qu'il devait y avoir des conquêtes spirituelles, que le Seigneur leur avait donné tout l'espace francophone, c'est-à-dire non seulement la France, mais également les pays d'Afrique où on parlait français, etc. Et donc ils partaient, ils organisaient des expéditions pour prendre possession des territoires que le Seigneur leur avait montrés. Alors ils faisaient le tour de la ville, comme à Jéricho cette fois, en proclamant la victoire du Seigneur sur les puissances spirituelles qui empêchaient la conquête de la ville, après quoi donc ils lançaient leurs assauts au moyen de mouvements d'évangélisation divers. Donc l'espace francophone, c'était, disais-je, non seulement la France, mais également les pays africains. Et c'est ainsi qu'en 1993, la muraille organisa une conférence francophone avec des représentants de tous les pays africains, et la muraille changea son nom et devint Signe de la francophonie. La conférence créa une alliance missionnaire francophone. Il faut dire que Philippe Jauré était aussi, j'ai oublié de préciser qu'il avait étudié à Koldine, il était d'origine apostolique donc. Et leur vision, c'est le royaume de Dieu sur la France. La France doit devenir le royaume de Dieu. Et par conséquent, ils doivent en effectuer la conquête spirituelle. Bon, la porte ouverte, de son côté, fut en retrait à la fin du siècle. Donc, il y avait les pôles principaux de la fin du siècle sont la communauté du point du jour, la communauté du buisson ardent, et puis alors le groupe Signe de francophonie donc dans le sud, puisque la communauté rencontre, qui en était aussi un des pôles principaux, a disparu, et puis dans l'est, évidemment, les communautés luthériennes qui gravitent autour de Kurt Marder. Du côté de la porte ouverte, 1978 fut le creux de la vague. Là, les autres centres prirent plus d'importance que la porte ouverte. Pour essayer de relancer un petit peu le centre de la porte ouverte, en 1983, on fit venir à la convention d'été Ruben Berger, qui était un juif messianique installé en Israël, d'origine américaine, qui s'était installé en Israël, qui orienta la convention de 1983, la porte ouverte, vers Israël, le retour des juifs comme signe de la fin des temps, ce qui était tout à fait nouveau, évidemment, dans le mouvement charismatique. Il faut dire que c'était l'époque où Thomas Roberts s'était installé à la porte ouverte, et il avait ce souci d'introduire la vision d'Israël au sein du mouvement charismatique. C'est au cours de cette convention que Pierre Van Vorden s'écroula, atteint d'une crise cardiaque en pleine prédication. Et puis donc, le 11 décembre 1983, eut lieu à la porte ouverte également le décès de Thomas Roberts, qui avait lancé un an plus tôt les montées à Jérusalem, comme nous en avons parlé la dernière fois. Et qui finalement, après la mort de Thomas Roberts et l'échec relatif des montées à Jérusalem, les responsables déclarèrent que la montée de Jérusalem à Jérusalem n'aurait pas lieu à Jérusalem, mais à la croix. Évidemment, c'est une manière assez élégante de tirer les leçons de l'échec. C'est la même année que David Duplessis mourut, donc. C'est en janvier 87 que David Duplessis mourut, et un an après, en 1988, Louis Pont, le directeur de la Porte Ouverte, qui avait succédé à Albert Burckhardt. Et c'est alors que, après la mort de Louis Pont, pas dire profiter de la mort, ce serait quelque chose d'affreux, mais enfin, tirant les conséquences de la mort de Louis Pont, le conseil de la Porte Ouverte demanda que la convention d'été de 1990 ne se tienne plus à la Porte Ouverte, parce que le conseil estimait que les conventions avaient amené une dérive de l'œuvre, que l'œuvre n'était plus dans sa vocation, qu'elle était devenue trop catholicisante, et les responsables souhaitaient un recentrage dans la mouvance évangélique. Et c'est la raison pour laquelle les conventions suivantes, donc la porte ouverte à partir de cette date, 1990, cessa d'être un des pôles du mouvement charismatique en France. Et les conventions suivantes eurent lieu dans un centre nouveau qui s'était créé quelques années auparavant, à Gagnères. Gagnères, qui avait été créé par des hommes d'affaires suisses, et qui donc avait au contraire une orientation à la fois très charismatique et très catholicisante. La règle, c'était qu'on ne fasse jamais prêcher un pasteur protestant sans lui donner son vis-à-vis catholique, en la personne d'un prêtre catholique. Donc il y avait là un grand souci de mettre sur l'Église catholique à égalité totale. Donc il y a eu là aussi donc la cessation de quelque chose. Bon, je vais m'arrêter là pour ce soir. On a presque terminé avec le réveil charismatique en France. Oui, peut-être quand même dire quelques mots sur les consultations de responsables avant de tirer les conclusions. Les rencontres de Versailles, on l'avait vu aussi dans ces années-là, ont périclité. Et la déception a succédé à l'enthousiasme. Et le 23 et 24 mai 1983 eut lieu la dernière rencontre mixte entre protestants et catholiques, qui se termina dans la confusion et la dissatisfaction générale. C'est pourquoi la rencontre d'octobre de la même année fut la dernière. Et on décida alors, entre protestants, de recréer Versailles sur la base de ce qui avait été au départ, c'est-à-dire d'une instance de concertation entre protestants. Mais les pentecôtistes en étaient exclus à cette période-là. Finalement, 2 ans plus tard, en 1985, on prit conscience de l'échec et la rencontre de 85, de l'automne 85, fut la dernière qui se tint à Versailles définitivement. Les rencontres de Versailles cessèrent donc. Par contre, les rencontres de responsables charismatiques catholiques et protestants continuèrent à se tenir à Singapour. C'était pas la porte, hein. La France était représentée par Kurt Mader et par David Berli. Donc, pour ce qui est du groupe de Versailles, il y avait eu de très nombreux colloques et un travail quand même très intéressant qui avait été fait, comme le notaient les historiens du mouvement charismatique. Le groupe de Versailles avait eu le courage d'affronter tous les problèmes, toutes les questions, même les questions les plus difficiles et les plus délicates, à la fois qui divisaient les protestants entre eux et qui divisaient les protestants avec les catholiques en ce qui concerne le mouvement charismatique. Et c'était un arrêt plus qu'un échec. Bon, il y avait eu un essoufflement, certes, mais il y avait eu aussi un travail considérable de clarification qui avait pu être fait par ce groupe de Versailles. Voilà, je vais m'arrêter là pour ce soir. Est-ce que vous avez des questions à poser ?